Jean, j'aimerais mieux te savoir mort que te savoir coupable de torture. Il m'a dit ça en partant, c'est la dernière chose qu'il m'a dit.
Ce qui fut fait à ceux des miens, qui fut exigé de leurs mains, du dos cassé, des mains vrillées, vieille à 30 ans, morte à 20 ans. Quand le regard avait pour âge l'âge qu'on a pour vivre clair, ce qui fut fait à ceux des miens, pas de terre assez pour manger, pas de temps assez pour chanter, et c'est la terre ou c'est la mer. Le travail qui n'est pas pour soi, la maison qui n'est pas pour toi. 14 pour les rassembler, l'armistice pour les pleurer. L'alcool vendu pour les calmer, un peu d'amour pour commencer. Quelques années pour s'étonner, quelques années pour supporter. Je ne peux pas le pardonner.
Jean Monnard, bonjour. Je vous remercie de m'accorder cet entretien pour Radio Canu, où on va parler de votre, essentiellement de votre expérience autour de la guerre d'Algérie. On va peut-être commencer par vous situer. Donc, vous êtes natif de Rieux.
Oui, oui, oui. Je suis né à Rieux en 1934, dans une famille d'agriculteurs, puisque Rieux faisait partie de la ceinture verte de Lyon, hein, chargée de nourrir les Lyonnais. Mes parents, donc, étaient maraîchers depuis des générations. Donc je suis né là, dans une famille de 9. Je suis le 5e. Ensuite, donc, j'ai demandé à être prêtre.
Et si on va un petit peu moins vite, donc, école primaire...
Oui, alors j'étais à l'école primaire publique de Rieux. Et puis à 9 ans, je suis parti à Bourg-en-Bresse. Dans une école, on appelait, c'est une école apostolique. Ça correspondait à la 8e à peu près. C'est d'ailleurs ce chiffre qu'on donnait. La 8e, donc j'avais 9 ans.
Parce que vous aviez dans l'idée déjà de...
Oui, oui, je voulais être prêtre. C'est pas du tout venu. Ma famille est très chrétienne, mais personne m'a jamais forcé. Hein.
Comment ça vous est venu l'idée? Vous
n'avez pas l'influence? Je sais pas, c'est venu un jour. Un jour, j'ai dit, tiens, Je servais la messe, alors je raconte tout, vous voyez. Et je sais pas, ça m'est venu comme ça.
Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je vous voir. J'ai roulé, j'ai vécu, j'ai aimé et j'ai passé aujourd'hui des moments roses, mais j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Et j'attends, cœur ouvert, rêvant, battant la semelle à la porte de ton ciel. Je crois qu'un beau jour, ton amour l'ouvrira. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Et voici que Jésus m'a surpris. Que fais-tu là à m'attendre, mon ami? Ton ciel se fera sur terre avec tes bras. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir.
Et non, donc, oui. J'en ai parlé à mes parents, ils étaient un peu surpris, ils étaient un peu embêtés parce que j'étais donc le cinquième de la famille, mais j'étais le premier garçon, il y a quatre filles avant moi. Or, dans les familles d'agriculteurs, les garçons étaient, au moins à cette époque-là, étaient très importants parce que c'est eux qui pouvaient reprendre la ferme, hein, parce que bon, il fallait, c'était encore l'époque où il fallait de la force physique, mener les chevaux, Mais ils n'y ont pas fait obstacle, donc après, bon, c'est le curé de la paroisse s'est chargé des démarches, et on m'a fait rentrer dans une école préparatoire, en somme, au petit séminaire.
C'est presque un petit séminaire.
Hein, non, c'est pas le petit séminaire, c'était préparatoire, ça faisait 8e, 7e, donc après on rentrait en secondaire, hein, puisque... Après, le petit séminaire, c'était sixième terminale. Hein.
Le petit séminaire, vous y êtes entré
Alors après, j'y suis rentré, j'ai redoublé ma 8e parce que c'était en 43 et l'année était difficile. On a commencé l'année, je crois, fin octobre. Et puis, on est parti fin mai parce que la maison à Bourg se trouvait à côté d'une grosse usine qui était menacé surtout par les Américains. Et il y avait des réservoirs de munitions, là, des dépôts de munitions dans la forêt de Seillon. Et si ça sautait, ça risquait de... Donc, ils nous ont renvoyés chez nous parce qu'ils aimaient mieux par sécurité. Et je me rappelle que à 10 ans, le responsable de la maison, qui était un prêtre, il m'a mis dans le train à Bourg et il m'a dit « Tu descends à Satonnet ». Mais c'est vrai qu'à 10 ans, évident, et surtout que le train passe par Rieux, c'est Satonnet-Rieux, mais enfin, il y a encore... 2 kilomètres. Bon, alors, c'est vrai.
Et vous avez des souvenirs de ça?
Ah oui, oui, je me souviens. Il m'avait emmené sur le porte-bagages de son vélo. Non, mais c'est... qu'il n'y avait pas de voiture. Enfin, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de... Donc, il m'a emmené à la gare. J'étais assis sur le... Mais il avait mis un petit coussin, je me souviens, parce que les porte-bagages, c'est pas toujours... Et puis, donc, il m'a mis dans le train. Et puis, il m'a dit, tu descends bien à Rieux. À Satonnet. Et puis voilà, donc après, bon, ça n'a pas été très brillant, puis j'ai jamais été une personne très brillante intellectuellement, donc j'ai remis ça, j'ai refait une 8e, une 7e, et après en 46, je suis rentré en 6e, à Meximieux. Meximieux, c'était là, donc, qu'était le petit séminaire officiel du diocèse de Belley, puisque c'était le siège de l'évêché était à Belley, donc, dans l'Ain.
Et toujours la même aspiration, la même envie.
Ah oui, oui, mais je n'ai jamais remis. Alors, bon, j'ai vécu mon séminaire comme ça, j'ai encore redoublé une classe la seconde, parce que là, j'avais une petite excuse, c'est que je m'étais cassé une jambe, puis ça m'a privé pratiquement de la moitié de l'année. Donc j'ai refait une seconde, et puis après j'ai terminé, et ensuite je suis rentré au grand séminaire de Belley. Et donc je suis rentré en 54. Oui, ben j'avais 20 ans, comme j'avais pris un peu trop tard. J'avais 20 ans. J'ai fait, on faisait un an de théologie, de philosophie et 4 ans de théologie. Donc
là, vous sortiez du circuit baccalauréat, quoi.
Oui, c'est ça. Ben après, ça correspond à, disons, à un peu...
Au niveau, mais c'était...
Oui, université théologique, quoi.
Et vous ne faisiez pas passer l'examen du baccalauréat, quoi. C'était pas le...
Si, on l'a fait passer, mais je n'ai pas eu. Et puis alors, c'était... à cette époque-là, il y avait beaucoup de prêtres qui étaient professeurs. Et on était tout un... alors ça me sert aussi d'excuse, ça, mais... Moi, je n'avais aucune envie d'être professeur, donc je me dis comme ça, je serai tranquille. Donc je suis rentré à Belley, et j'ai pris la soutane, c'est assez drôle ça, hein. On la prenait tout de suite en rentrant au séminaire. J'ai fait 2 ans, donc 1 an de philosophie, 1 an de théologie, et je suis parti, j'étais appelé à l'armée en septembre 56. Septembre 56, donc il y avait déjà la guerre d'Algérie qui a commencé pratiquement 2 ans avant.
J'avais tellement peur de ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage, elle m'a évidemment traité de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman, que de te perdre. Nous nous marierons en cachette.
Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
T'aimerai jusqu'à la fin de ma vie.
Mais vous y pensiez à l'Algérie,
c'était, ah oui,
c'était un souci, c'était une préoccupation. Vous aviez déjà une idée de ce que vous alliez faire, y aller, pas y aller.
C'est-à-dire surtout, au grand séminaire, parce que d'abord parce qu'on était plus âgés. Les gens de ma classe partaient à 20 ans. Hein. Moi, j'étais sursitaire, donc on faisait tous parce qu'on tenait la structure du séminaire, tenait pas ce qu'on part tout de suite. Hein. Ils aimaient mieux qu'on soit un petit peu plus mature. Donc, on demandait un sursis à l'armée. Et on l'obtenait si on faisait de la préparation militaire. Donc, le dimanche, on allait courir, voilà, avec un fusil sur le dos. Et puis, on rampait sous des barbelés. Enfin, bref. Il y avait un parcours du combattant qu'on faisait. Et donc, après, on pouvait casser son sursis quand on le voulait. Donc, moi, j'ai arrêté mon sursis. Et j'ai été appelé. Donc, en septembre 56.
Vous n'étiez pas ordonné à ce moment-là.
Non, pas du tout. Il me restait encore, j'avais fait 2 ans. Il me restait encore 5 ans. Trois ans. Ah, 3 ans. Donc, au séminaire, j'ai fait 2 ans de grand séminaire, donc c'était déjà des adultes, hein, les plus jeunes avaient 18, 19 ans. Et puis surtout, il y avait déjà des gens qui étaient en Algérie, hein. Parce que l'Algérie, en 54, disons 55, hein, parce que c'est là qu'on a commencé à y envoyer des soldats, donc il y en a qui sont partis en Algérie. Des gens qui faisaient leur service dans les casernes, hein, qui pouvaient en Allemagne, en France, et qui sont partis. Donc, ils écrivaient au séminaire. Et ils envoyaient il n'y avait rien d'obligatoire.
Vous aviez connaissance de ces lettres.
Et le supérieur du séminaire nous lisait les lettres. Parce qu'au séminaire, on n'était pas très nombreux, on était, je sais pas, moi, 70, hein, à peu près. Donc ça fait quand même des communautés, s'il est possible de rassembler. Et donc on était très attentifs à ce qui se passait, parce qu'en plus on se sentait concernés, puis c'était nos copains, on disait s'ils sont tués. Et donc, il y avait toute une réflexion qui se faisait. Il y avait tout un courant très anticolonialiste. Hein, c'était très ouvert, hein, comme milieu. Hein. Contrairement, on pourrait dire, bien les curés, c'était fermé, c'était droite, c'était ci, oui. C'était là.
Non, ce qui me surprend, c'est que pourtant les l'Église a souvent servi d'avant-garde au colonialisme. Quoi, on a voyé les pères blancs.
Ah, mais tout à fait, oui. Et puis moi, j'assume bien ça. Mais alors, je dis pas tous les prêtres, hein, mais il y en avait plusieurs professeurs, parce que les professeurs, chaque professeur suivait un certain nombre de gens. Hein. On appelait ça le directeur spirituel, donc il s'occupait de discuter avec lui pour voir s'il était capable d'être prêtre, enfin bref. Puis il y avait tout le suivi spirituel. Celui qui me suivait était très, très attaché à, justement, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On lisait Témoignages chrétiens, je ne sais pas si vous connaissez,
oui,
mais c'était...
À l'époque, c'était...
Oui, et ce prêtre me l'envoyait sous pli fermé quand j'étais en Algérie, hein, parce que, autrement, ça ne passait pas la censure militaire. Hein. Donc on était formés là, puis on lisait beaucoup le Nouvel Obs, enfin ça s'appelait France Observateur à l'époque. Il y avait l'Express aussi à l'époque, hein, c'était puis on lisait Le Monde, Bon, le canard enchaîné, c'est pas tellement là que je le disais, mais de temps en temps, c'est pas... Et donc, on a été formé à ça. Hein, et puis à dire, c'est pas pensable qu'on écrase des gens, qu'on les maintienne dans des situations de sous-hommes. Il y avait de grosses motivations de ce côté-là. Hein.
Vous avez l'impression que vous connaissiez la situation du peuple algérien, indépendamment de...
Ah ben oui, oui, on se rendait bien compte de ça. Hein, et puis les gars nous disaient, ceux qui nous écrivaient, ils disaient, mais si vous voyez la pauvreté, l'inculture, enfin l'inculture au niveau de l'instruction, hein, j'entends. Les gens, enfin vraiment, ils vivent dans des... comme au Moyen-Âge, quoi.
يكس نقها الصلاة ذكالي ويا مغيلي لكفا فلاش داختي وقافي التخاطر ينغى يحبا صوت غرف فريشا يا يكلي ضر متهجينا كلاس نتناشي
J'ai été appelé à l'armée. Moi, je m'attendais à partir en Algérie et ils m'ont affecté dans une école militaire préparatoire à Billon. Alors, c'est en somme, Billon, c'était un petit séminaire pour les militaires. On rentrait en sixième.
Oui, ce qu'on appelle les enfants de troupes.
Les enfants de troupes, c'est ça. Et ça allait jusqu'en... au bac, quoi. Donc, il y avait, je sais pas, moi, peut-être plusieurs centaines de jeunes qui étaient là. Et il fallait... Alors, il y avait des militaires de carrière qui s'occupaient de l'idéologie et de la discipline. Et puis, il fallait un certain nombre d'encadrants. Alors, bien sûr, ils recrutaient beaucoup de gens de l'éducation nationale. Alors, il y avait des profs. Et là, j'ai connu pas mal de gens qui étaient agrégés ou autres, et puis ça faisait un milieu assez intéressant. Il y avait beaucoup d'instituteurs. Et puis, l'aumônier régional, il poussait aussi pour qu'il y ait des séminaristes, pour pas que ça soit tout aux mains de gens d'éducation nationale.
Des incroyants de l'éducation
nationale. Ah, oui, c'était... Donc, il y avait, je sais pas, moi, il y avait peut-être 6 ou 7 séminaristes hein, qui étaient là.
Oui, quand même.
Et moi, donc, quand je suis arrivé, moi, j'étais assez antimilitariste. Hein, et je me souviens qu'on est arrivé au mois de septembre, donc, et on a été tout de suite affecté, comme la rentrée se faisait quelques semaines après. On nous a tout de suite mis à charrier des lits, des tables, à mettre en état la maison. Et ils n'avaient même pas pris le temps. Alors on nous a quand même, j'ai posé ma soutane, et ils nous ont donné des treillis. Mais il nous a même pas pris le temps de nous expliquer les grades. J'aurais dû les savoir, mais j'avais fait de la préparation militaire. Et je me souviens que je disais monsieur à l'adjudant qui nous commandait. Et alors j'y mettais un certain, certain plaisir. Oui. Alors il me dit, mais vous pouvez pas m'appeler autrement. Ben, j'ai dit, moi je sais pas votre prénom. Alors là, j'ai été un peu marqué, quoi. Ça, c'est sûr que... Alors ils m'ont affecté à l'infirmerie. Alors donc à l'infirmerie, il y avait...
Vous n'aviez pas de formation.
Non, non. Moi, j'étais...
C'est l'utilisation des compétences
oui,
à l'armée.
Oui, oui. Donc il y avait un médecin, il y avait une infirmière, et puis bon, on passait les gamins. Alors il y avait le problème des yeux, par exemple, voir s'ils voyaient ou bien... Et je me souviens, on passait les gamins sur des tests de couleurs pour savoir s'ils étaient daltoniens. Alors ça faisait toute une série de points, par exemple, des points de toutes les couleurs, et on disait, ben, tu vois, tu prends ce point-là, tu suis tous les points. Alors, bon, là, il y avait des centaines de gens à passer, donc on servait. Puis après, petit à petit, moi, je me suis intéressé à la chose. Alors, bon, on m'a appris à faire des analyses d'urine, on m'a appris à peser les gamins, c'était facile, et noter leur poids. Et puis après, on m'a appris à faire des piqûres, on m'a appris à... Et de ce côté-là, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, le Toubi aussi, comme il voyait que ça m'intéressait, il me dit, bah, tiens, regardez, ça, c'est ci, c'est ça, bon. Alors, donc, j'ai fait ça pendant 14 mois.
Ah oui, 14 mois.
14 mois, je suis resté là. Et puis, au bout de 14 mois, donc, c'était le maximum qu'on pouvait faire en France. Donc, ils nous ont dit, bah, vous allez partir en Algérie.
Ah oui, parce qu'il y avait une règle comme ça.
Ah oui, oui, c'était 14 mois. 14 mois on était, sinon, on pouvait dispenser si on était soutien de famille ou des trucs comme ça, pupille de la nation, mais moi, j'avais pas, ça s'est trouvé comme ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que je n'avais aucune, enfin, que les gens qu'ils envoyaient, ils n'avaient aucune formation militaire. C'est qu'avant de partir, ils nous ont dit, mais est-ce que vous avez déjà tiré avec un fusil? Ben, on a dit non. Puis comme ça, ne nous avait pas manqué. Alors, ils nous ont emmenés à Clermont-Ferrand, parce que Billon, dans le Puy-de-Dôme, ah, c'est à côté de Clermont. Clermont. Alors, il y avait le 92e, je crois, d'infanterie. Donc, il y avait un centre de tir. Alors, ils nous ont emmenés au stand de tir. On a tiré, je sais pas, on a grillé 15 cartouches. Pas plus, hein. Et puis, on est rentrés, puis ils nous ont dit, vous allez partir, donc, en Algérie.
Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire. Au moins ça c'est viril, c'est bon pour nos petits gars. Quand sonnent les tambours, tout le monde est solidaire. Le rythme vous entraîne, on y va d'un seul pas, d'un seul pas. Le regard fier et droit vers l'ennemi qui recule, ayant déjà compris qu'il n'avait plus d'espoir. Vaincre s'écrit pour nous en lettres majuscules. C'est avec des clairons que l'on apprend l'histoire. La 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 la. La musique militaire, c'est comme un bain de jouvence. Ça nous rappelle à tous quels gaillards nous étions. On leur en a fait voir aux ennemis de la France. Devant nous, dans mon temps, ça baissait pavillon, pavillon. Fallait nous voir, nous autres, au 93e. On en voulait, je vous jure, un sacré nom de nom. On avait beau suer de peur, on avançait quand même. Musique en tête, hardie, baïonnette au canon. La 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 la. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ça joue les anarchistes. Ça prétend réfléchir, la guerre ne leur dit rien. Malheureux galopin, c'est tout de même un peu triste. Vous irez comme les autres au baroud, j'espère bien, j'espère bien. Y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui payent. pour sauver la patrie et l'honneur du drapeau. On s'est battu pour eux, ils nous doivent l'appareil. C'est le devoir du soldat d'aller risquer sa peau. La 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 musique militaire, c'est ça qui fait des hommes. Et pas des petits voyous du gibier de boîte de nuit. S'ils avaient fait comme moi la bataille de la Somme, ils auraient sûrement le droit d'en être fiers aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, si on écoutait les conseils des vieilles classes, on leur battrait le rappel, on les ferait foutre en rang. Et voir en première ligne un peu comment ça se passe. Et devenir, s'il le faut, l'orgueil de leurs parents. La 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 la. Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire. Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire. Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire.
Alors là, bon, on a eu une permission, on est allé dire au revoir à la famille. Et c'est là que j'en reviens au séminaire, donc je suis passé au séminaire. Et puis, bon, j'ai pris les dernières nouvelles des gens, des nouvelles que je connaissais, parce que on avait on faisait un petit bulletin, justement, avec les lettres qui revenaient, qui étaient envoyées par les gens d'Algérie. Puis les autres aussi, il y en avait qui étaient en Allemagne. Mais, donc il y avait un extrait des lettres, le plus intéressant, qui s'est sorti par un petit truc qui, c'était un A4 plié en deux, comme ça, graffé. Mmh. Et puis il y avait un peu l'essentiel, donc on avait des nouvelles un peu de tout le monde. Ça s'appelait Entre Frères. Donc on a dit au revoir aux copains, et c'est là que le prêtre qui s'occupait de moi, il m'a dit, il était toujours un peu solennel dans ces moments-là, et puis il mettait les bras comme ça, il me dit: Jean, j'aimerais mieux te savoir mort que te savoir coupable de torture. Il m'a dit ça en partant, et la dernière chose qu'il m'a dit. Mais moi, ça m'a pas choqué, parce que ça correspondait
à ma... Ça lui coûtait pas grand chose de dire.
Non, ça lui coûtait pas grand chose, mais c'était important aussi, hein, parce que, mais c'est vrai que c'est, après coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand j'y ai réfléchi après coup, sur le moment, ça m'a pas. Donc, on est parti, alors on est parti de Clermont, oui. On a pris.
Vous aviez idée de ce que vous alliez faire en Algérie, vous saviez déjà, parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est qu'avec le fameux tu ne tueras pas, là, vous auriez pu tous être objecteur de conscience aussi, non?
Non, mais moi, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été ça, parce que moi, j'ai toujours voulu être avec les gens. D'ailleurs, après, dans mon histoire personnelle de prêtre, ça a toujours été ça. Je n'aurais pas, d'abord, moi, par exemple, je n'aurais pas déserté, moi. Je pouvais pas, parce que même, je sais pas, moralement, physiquement, je sais pas, mon père était ancien combattant de 14, et puis, on avait ce truc, puis ça, c'était pas ensemble. C'était pas dans mes schémas. Ça veut pas dire que j'ai rencontré des copains, hein, qui ont déserté, parce qu'après, bon, ils ont retrouvé une vie normale, mais pendant longtemps, ils ont quand même été, rejeté par la nation.
Des copains séminaristes?
Oui, alors il y en a un ou deux, oui, mais c'est surtout dans le milieu un petit peu, je sais pas, anarchiste, hein, ou autre. Bon, il y a des gens qui ont refusé, et c'était tout à fait... Moi, j'étais pleinement d'accord avec eux, mais je me sentais pas concerné, parce que, bon, moi, c'est pas tellement la peur de... Il y avait peut-être un peu ça, mais... Je sais pas, je me disais, il faut être avec les gens, sinon si tous ceux qui sont contre s'en vont, on va laisser que l'argument vaut ce qu'il vaut. Hein.
Ah ben c'était la thèse du Parti communiste aussi.
Hein. Oui, mais moi j'étais pas au Parti communiste. Hein, mais,
Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité.
ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Debout peuple de la terre, un seul but, unissez-vous. Que la terre soit notre terre, notre nourriture à tous. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Les bruns, les blancs, jaunes ou noirs, cessez de vous massacrer. Que les peuples enfin se parlent, l'accord viendra sans retard. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Vous tous êtes nécessaires si nous voulons arriver. Et ne pas aimer son frère et refus de progresser. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Ne prêtons pas d'armes aux maîtres, heureux de nos désaccords. Ils demeureront nos maîtres tant que dureront nos torts. Allez, n'oubliez jamais que notre force est l'unité. Ventre plein ou bien ventre affamé, n'oublie jamais la solidarité. Prolétaires de tout pays, l'union c'est la liberté. Vos bataillons et vos armées effacent les tyrannies. Allez, n'oublions jamais, posons franchement la question. Ventre plein ou ventre creux, à qui appartient le matin, tous les matins du monde?
C'était donc, alors, on s'est traîné pendant, je suppose, une nuit entre Clermont-Ferrand et Marseille. On est allé...
Vous êtes parti à quelle heure avec le train?
Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il
y a des voyages qui faisaient partir les gens à 1h du matin pour éviter...
Oui. Parce que en plus, c'était en 57... Et il y avait eu beaucoup d'histoires avec surtout les rappelés, parce que quand ils ont rappelé, c'était en avril 57, je crois, ou 56, ils ont, donc c'était les gens qui étaient rentrés depuis 2 ans de l'armée, ils leur ont fait faire 6 mois, alors il y en a qui ont refusé de partir, il y a des gens qui se couchaient sur les voies, il fallait que les flics soient là pour que les trains partent, non, c'était... Avec les appelés, il n'y a pas eu de problème, on était surveillés, hein. Mais on n'a pas eu d'incident de ce côté-là. On s'est retrouvés au DIM Sainte-Marthe, au camp Sainte-Marthe. À Marseille, c'était alors le camp Sainte-Marthe, c'est célèbre, hein, parce que tout le monde y passait. C'était là qu'on attendait le bateau, quoi.
C'est curieux, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, parmi les gens que j'ai rencontrés, ils ne se rappellent pas du nom du camp. Ils se rappellent de Marseille, mais ils ne savent plus où ils étaient.
Ça s'appelait... c'est le camp Sainte-Marthe. Et puis, à côté, il y avait le DIM. Le DIM, ça voulait dire le dépôt des isolés métropolitains. C'est-à-dire, quand les gens étaient... Nous, on partait en groupe, c'est-à-dire qu'on avait avec nous un officier qui nous gérait, quoi, qui disait, bon, ben, on s'arrête là, on mange là, vous dormez là, bon. Mais il y avait des gens qui étaient en individuel, ceux qui venaient en congé, hein, en permission, ou qui repartaient après, ou après une maladie, ou autre, ils partaient tout seuls. Donc, ils rejoignaient le DIM. Et puis là, bon, ils étaient pris en charge pour les emmener au bateau. Donc, on a passé, je crois...
Mais vous étiez un groupe de jeunes qui vous connaissiez ou vous êtes,
ben,
vous
on partait, on partait des... plusieurs. L'école, on était, mais on n'était pas très nombreux de l'école parce que qu'est-ce qu'il y avait à l'école? Il y avait peut-être 50 soldats, hein, 50 appelés. Donc, on partait peut-être 4-5. Hein.
Enfin, pas isolé complètement.
Oui. Non. Il y avait un autre, d'ailleurs, qui était séminariste aussi, avec moi, à Belède. Donc, on est partis tous les deux ensemble. Et puis, un autre garçon que je connais, qui est mort il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et donc, on était au moins les trois, sûr. Donc, là, bon, on suivait comme un troupeau. Hein, c'est impressionnant, d'ailleurs, le nombre d'heures qu'on peut passer à attendre. Alors, ils nous avaient bien... c'est vrai qu'après, les soldats, ils s'organisent. Hein, quand, par exemple, on sait qu'il faut une caisse en bois, il ne faut pas une valise en carton, parce qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Alors, il faut une caisse en bois qui soit suffisamment solide, qui soit... pas trop grande pour pas être trop encombrante, qui soit quand même suffisante en capacité pour qu'on puisse mettre ses affaires, et surtout sur laquelle on peut s'asseoir. Et ça, c'est très important. Parce que quand on part, alors on a un sac marin, ils nous donnent ces espèces de sacs là, avec un sac marin, avec une grande courroie là. Et puis la valise, alors c'était important parce qu'il nous disait, bon, on va au bateau. Mais on arrivait, je ne me rappelle plus, hein, mais par exemple, on pouvait très bien arriver à 8h le matin pour embarquer à 2h de l'après-midi. Hein. Donc on restait là, attendre, alors on était bien content de pouvoir s'asseoir. Et donc on est monté sur le bateau, dont j'ai oublié le nom, parce qu'après j'étais revenu en congé. J'ai fait 4 bateaux, et je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait le ville d'Alger, je crois. Mais c'était des bateaux normaux, c'était des bateaux civils hein, que l'armée louait.
Qu'ils affrétaient.
Donc il y avait des cabines qui étaient réservées aux gens importants, aux sous-officiers, aux officiers, et les gens de troupe, et ça, alors ça m'a marqué. Hein. On nous a donné ce qu'on appelait des transatlantiques. Hein, ça fait des espèces de fauteuils, enfin des trucs en bois.
Une chaise longue,
c'est ça. Donc on nous a donné ça, on s'est mis dessus. Et moi j'ai été malade parce que la mer était mauvaise et je crains. Et je me suis mis à vomir. Mais alors vraiment. Et ça a duré 24 heures. Hein. Oh ben là j'étais. Alors au début, après, bon, bien sûr, c'est communicatif, parce qu'après, il y a une ambiance, il y a une odeur, c'est affreux, puis les gens n'ont pas toujours le temps de sortir. Alors je me rappelle, le bateau, on était sur on essayait de temps en temps de se mettre sur les chaises longues, comme le bateau monte, alors les chaises longues, elles bougent. Non, mais c'est incroyable, hein. Ça partait comme ça, ça glissait, on se retrouvait tous au fond. Après, ils remontaient, on perdait. Non, on dit, mais c'est pas, on ne charrierait pas des chèvres hein, dans ces. Alors, après, j'ai eu l'occasion de prendre, parce que c'était tout à fait possible d'avoir d'autres moyens de transport, puisque l'armée avait des transports de troupes, comme l'Atos 2. C'est un bateau, il mettait 48 heures pour aller en Algérie, il avait fait l'Indochine pendant. Mais alors, c'était organisé, les cales étaient toutes en couchette. On avait des petites couchettes individuelles, c'était pas le luxe. Mais disons que c'était un peu mieux. Et tout ça, ça m'a marqué. Mais alors, j'étais malade, mais vraiment fort. Hein. Et à tel point que je me disais, oh, j'aimerais que le bateau coule pour mourir. Ah oui, tellement j'étais complètement...
C'était la première fois que vous
montiez sur un bateau. Ah oui, c'était la première fois que je montais sur un bateau et que j'avais ce sentiment-là, mais alors... Et donc on est arrivé à Oran. Et moi j'ai toujours été à Oran, je n'ai jamais été à Alger. Hein. Oran, alors c'est vrai que ça fait du bien de poser le pied sur le sol. Et Oran c'est très beau comme ville, hein. C'est superbe alors. Moi, j'y suis retourné une fois depuis, mais ça m'a pas fait la même. Mais alors vraiment, le ciel bleu, même si on était au mois de, on était début début novembre. Mais enfin, il faisait très beau. Alors le ciel, la mer, les maisons étaient toutes blanches et c'était... Donc, on était bien content de poser le pied sur le sol. Hein, sur, et le mal de mer disparaît très vite. Hein. Alors, moi, je me suis rendu compte. Alors, on est descendu du bateau et la première chose, ils nous ont fait enlever nos chemises et puis ils nous ont fait une piqûre. Alors, mais en descendant du bateau, on nous a expliqué que c'est contre la fièvre jaune, je crois. On avait eu pas mal de piqûres avant, mais enfin. Et après, donc, on a été emmené dans un... Je me suis retrouvé dans un bataillon de... Je sais plus si... Non, ils ont... C'était... On était dans un camp, je sais pas si c'était pas Écmul. Et le matin, ils nous ont réunis, alors toujours pareil, des heures, et puis ils ont dit, on veut des chauffeurs. Alors, qui c'est qui conduit? On veut... Alors, quand ils ont dit « on veut un infirmier », moi, je vais lever la main. Ils ont dit « bon, tu vas là-bas ». Donc, je suis allé là-bas. Et c'est là que, après j'ai suivi, on m'a dit, tu vas là. Puis pour ça, c'est bien organisé, hein. Personne se perd, hein. Et puis, après, on m'a dit, tu vas monter dans ce camion, là. Alors, on est monté dans le camion, on avait dû dormir dans le camp, là, parce que ça fait plus de 50 ans, hein, je me rappelle plus sous les détails. Mais je me souviens qu'à travers le camp était protégé par des barbelés, à travers les barbelés, on voyait la rue, et c'est la première fois que je voyais des femmes voilées. C'était...
Après les bonnes sœurs.
Après les bonnes sœurs, oui, mais là, complètement voilées. Et c'était... elles avaient une espèce de mouchoir triangulaire qu'elles se mettaient, qui faisait une pointe, là, en bas. Donc, on nous a emmenés à la gare et on est monté dans un train. Mais alors, c'était un train, c'était extraordinaire comme train. Et une petite locomotive avec une grande cheminée. Ça me faisait penser après coup, quand j'ai vu les pubs pour le café qui vient d'Amérique latine, là. C'était ça, hein. Alors, on monte là, des petits wagons aussi. Alors, on était là, il y avait des civils.
Un train de civil, donc.
Et oui, c'était un train de civil. Nous, on était, ils nous avaient donné des fusils. Alors, on avait nos fusils, on avait nos sacs et tout. Et on est parti. Alors, le train s'arrêtait. Pour les passages à niveau, le train s'arrêtait avant. Il y avait un garde qui descendait du train, qui fermait le passage. Le train s'avançait, s'arrêtait, il ouvrait la porte. Ah non, mais il devait passer deux trains par jour. Hein. Et puis, il s'embarque dans la montagne. Et puis, on voyait bien dans les virages. Alors, moi, je dis, mais vous avez vu, devant la locomotive, il y a trois wagons de paille. On va ravitailler une ferme. Alors, le gars, il me dit, non, ça, c'est pour les mines. C'est pour faire sauter les mines. Avec des wagons de paille comme ça, ça protège la locomotive, alors, déjà. Puis alors, moi, ce qui m'a frappé, là, c'est... Alors, je regardais par la fenêtre, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Tout était brûlé. Les gares étaient brûlées, les villages, les écoles étaient brûlées. Enfin, tout ce qui était un peu administratif, c'était tout brûlé.
Vous étiez loin d'Oran, à ce moment-là.
Ben là, on s'est éloigné, oui, parce qu'on est allé jusqu'à Orléansville. Et Orléansville, c'est au sud d'Alger, à peu près. Hein. Affreville, même. Et donc, on est arrivé là, le soir. On a roulé toute la journée, oui. Et le soir, donc, ils nous ont fait monter dans des camions. Alors, des camions débauchés. Alors, c'est, là, j'ai compris pourquoi. Les camions en Algérie n'étaient jamais bauchés, hein. Les bâches étaient remontées sur le toit. Alors, il y a le toit du camion, il y a les ridelles avec des arceaux, et la bâche était remontée dessus. Donc, il y avait un toit, mais il n'y avait rien par côté. Et les sièges sont toujours dos à dos au milieu, de façon à ce qu'on voit dehors et ce qu'on puisse sauter. Parce qu'ils nous ont expliqué, ils ont dit, mais si on bâche et puis qu'on se fait prendre, ben vous êtes... bon. Donc, on s'embarque là-dedans. Alors, moi, j'avais mon fusil entre les jambes, comme tout le monde. Et il y a un moment, le gars, il y avait un sergent qui était venu nous chercher et qui nous dit, j'espère que vos fusils sont chargés parce qu'on se fait souvent attaquer, là. Il faisait nuit, hein. C'était... Alors, j'étais là, alors... Je me souviens, normalement, on met 5 cartouches dans son fusil, hein, on bourre, là, dans le magasin. Moi, j'en ai mis qu'une, parce que j'ai dit, oups, ça sera pas suffisant.
Dans un
Ainsi se termine cette première émission consacrée à Jean Mollard. Jean Mollard fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Morbihan, un texte d'Eugène Guilvic, interprété par Francesca Solville sur une mise en musique de Jean-François Gaël. Puis c'était Aimé Duval qui interprétait sa composition « La petite tête ». Ensuite, vous avez entendu un extrait des Parapluies de Cherbourg sur un texte de Jacques Demy, la musique de Michel Legrand. Puis, vous avez entendu Tao Samrouche interpréter un chant traditionnel berbère, « Malédiction sur tes parents ». Ensuite, c'est Jean-Michel Piton qui, sur sa musique et sur le texte de Bernard Dimet, la musique militaire, donc interprétait cette chanson. Puis c'est Hélène Martin qui, sur les paroles de Bertolt Brecht, la musique de Hans Eisler, interprétait le chant de la solidarité. Ensuite, c'est Djurdjura qui, sur des paroles et musiques de Abouda Djura, interprétait des « ça », en français, « La liberté se chante ». Et enfin, vous avez entendu la version des clés à molette de la chanson de Francis Lemarque, « Quand un soldat ». Nous remercions Jean Mollard et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission à lui consacrée, au fil de laquelle nous évoquerons le début de son séjour en Algérie, son affectation et des événements marquants de son vécu. Bonsoir. Thank you.